Massage sensitif et méthode Camilly. Marque déposée que seuls les praticiens et formateurs habilités sont autorisés à utiliser. Ce que nous dit Anne Cotenay, médecin généraliste. La méthode Camilly apporte directement un changement expérimenté, vécu et inscrit dans le corps. En cela, elle est pertinente, efficace et ouvre à la personne massée de mieux s'approprier son propre langage corporel. La méthode Camilly permet au patient d'établir une rencontre et une relation beaucoup plus proche entre un ou une professionnelle et une personne en demande d'aller mieux. Être écouté de façon inconditionnelle, avec la distance nécessaire, ce qui facilite une ouverture à soi-même en profondeur. Être respecté dans son rythme corporel et d'élaboration mène vers une prise en charge par le patient de sa guérison. Le massage sensitif est un très puissant accélérateur de prise de conscience. Derrière ces constatations, affirmations, que se passe-t-il réellement durant le temps corporel des séances, qu'elles soient à vocation bien-être ou psychosomatothérapeutique? Dès son origine en 1956, le massage sensitif se centre sur le traitement des psychosomatismes, défini dans le chapitre « Lorsque le corps souffre à la place du psychisme ». Puis plusieurs domaines d'application voient le jour, bien-être, psychothérapie, accompagnement des personnes âgées ou dépendantes, des personnes en phase de vie difficile, séparation, deuil, bouleversement existentiel, ayant besoin de faire appel à toutes leurs ressources adaptatives ou de s'appuyer sur une méthode préventive. Les pratiques sont accessibles en séances individuelles de bien-être, de thérapie ou d'accompagnement, ainsi que dans les groupes de loisirs, d'apprentissage ou de formation. Si au lieu de recevoir des massages, vous préférez apprendre, la première étape commence par le cycle élémentaire constitué de 21 journées effectuées au rythme de votre choix avec un ou plusieurs formateurs de votre région. Vous y apprendrez les principes de base de la communication corporelle, vous développerez vos capacités d'écoute tout en bénéficiant de relaxation, d'échanges conviviaux et enrichissants. Ces 21 journées vous permettent une pratique privée, en famille ou avec des amis. Ensuite, trois domaines d'exercice professionnel correspondent à des formations spécifiques. Le bien-être, utilisation pratique de la technique du massage sensitif. La somatothérapie, utilisation du massage sensitif et de l'entretien guidé. La psychosomatothérapie, utilisation du massage sensitif, de l'entretien guidé, du décryptage analytique des rêves. D'autres formations sont également développées en direction des personnes soignantes, de l'installation professionnelle, des spécialisations du développement de compétences professionnelles. Enfin, de nombreux modules, approfondissement des thèmes aussi variés que ventre et cerveau, massage sensitif et spiritualité, massage habillé, massage assis. Dans ce texte, nous utilisons souvent l'expression « patient-client ». Patient désigne la personne qui est en thérapie, client nomme la personne qui reçoit une séance de bien-être. Le terme de praticien désigne indistinctement le thérapeute et le praticien de bien-être. Le massage sensitif n'a rien à voir avec le massage médical ou le massage kinésithérapeutique tel que défini par le décret du 8 octobre 1996. C'est une approche originale du toucher qui s'adresse à la totalité somatopsychique de l'être. Nous conseillons, dans tous les cas, aux participants de consulter un professionnel de santé, même si, dans de nombreux cas, ce sont eux-mêmes qui conseillent de s'adresser à nous. Seuls les praticiens et formateurs habilités sont autorisés à utiliser des marques déposées, massage sensitif et méthode Camilly. Les fondations. Claude Camilly, un pionnier. Fondateur du massage sensitif, Claude Camilly, 1933 à 2018, s'est vu décerner le certificat européen de psychothérapie. European Certificate of Psychotherapy en janvier 2010. En début de carrière, lors de remplacement de professeur d'éducation physique et sportive, et grâce à sa pratique approfondie des arts martiaux, entraîneur régional de lutte et de judo, il observa combien l'équilibre corporel peut être en lien avec l'équilibre psychique. Il développa aussi des compétences de maîtrise, de positionnement et d'utilisation du corps pour, avec un minimum d'effort, obtenir un maximum d'effet. Il se servira de ces compétences pour construire la structure du massage sensitif. Major de la promotion 56-57 au Centre de formation et de recherche du ministère de la Justice à Vaucresson, chevalier de l'Ordre national du mérite en 77, ses multiples implications et décorations illustrent combien Claude Camilly et ses méthodes sont ancrées dans le concret. Maîtrise de psychologie sociale et de sciences de l'éducation à la faculté de Paris-Nanterre, dépôt de thèse de doctorat avec Jean Maisonneuve et Jean-Claude Filiou, ses études témoignent de son intérêt pour la vie des groupes et les interactions humaines. Psychanalyste jungien, psychologue analytique, après une analyse freudienne, il suit pendant 8 ans une didactique jungienne, puis une supervision jusqu'à ses 80 ans, qui explique ses nombreuses références aux concepts jungiens, anima, animus, processus d'individuation. Assembler au lieu de réparer. Esprit toujours en éveil, il savait faire des ponts là où d'autres élèvent des murs. Pont entre le corps et la psychanalyse, voire le toucher et la psychanalyse, Méga Essentialiste 2003, Bernet, Dinalo édition. Pont entre vie concrète et réflexion, pont entre pensée orientale et occidentale. Les deux modèles de vision de l'univers sont complémentaires et nous pouvons apprendre à passer de l'une à l'autre suivant nos besoins au lieu de les opposer. Et pont entre la thérapie et le bien-être. Le but de la thérapie, comme du massage de bien-être, n'est-il pas que la personne se sente mieux? Claude Camilly est un homme ancré dans le concret, au parcours riche d'expériences multiples, le cœur grand ouvert, qui savait se laisser traverser par ses intuitions. Dans les courants de l'histoire, notre époque vit des replis identitaires, des renfermements, des défenses dans des précarés. Cela ne nous empêche pas de rester fidèles aux valeurs qui nous ont pétris. Quand l'homme a goûté à la liberté, peut-il s'en passer ? Les valeurs humanistes redeviendront le bien commun dans nos sociétés et prises de plus de justice et d'écologie. Ainsi, nous affirmons ne pas être nostalgiques du passé, mais manifestons une confiance indéfectible en l'avenir. Les années 50-60 en Occident ont été socialement marquées par des besoins de libération et d'expression des corps et des pensées. Cette période a vu fleurir de nombreuses pratiques de développement personnel, groupes de thérapie, méthodes humanistes, sophrologie, pensée positive, analyse transactionnelle, les méthodes dites New Age. Le massage sensitif, en 1956, partie corporelle de la méthode Camilly, ainsi que ses fondements philosophiques, voir le chapitre sur les anneaux borroméens et sur le maillotage, s'inscrivent dans cette mouvance. De tout temps et à travers toutes les cultures, le massage se retrouve comme façon de prendre soin et comme intermédiaire relationnel ou d'inscription culturelle. En tant que modalité sensorielle, le sens du toucher se développe le plus précocement dans la vie intra-utérine. Il participe de façon majeure au développement psychomoteur et affectif de l'humain dès sa venue au monde. À la condition de se situer dans un minimum d'attente et de désir de changement, le massage sensitif est une façon de se rencontrer soi-même et de rencontrer l'autre, avec tout le dynamisme de transformation que cela implique. Le massage sensitif permet de se sentir habiter son corps de façon toute nouvelle et s'adresse à tout un chacun dans la mesure où la personne est désireuse de s'aventurer sur ce chemin de nouveauté. Résolument didactique, la méthode Camilli associe le patient à sa propre évolution. L'évolution des mentalités et la communication par le massage ouvrent la voie à plus de réalisation de soi, plus de contact, plus d'équilibre, plus d'écologie relationnelle. Une panacée universelle? S'il existait une potion ayant une application à toutes les difficultés physiques et morales, depuis que le monde est monde, nous pourrions penser que cela se saurait. Mais nous ne connaissons pas de remède miracle. Les pharmacies sont pleines de bons médicaments. Mais qui choisirait d'ingurgiter toutes les potions sans distinction? Le massage sensitif procure énormément de bienfaits physiques et psychologiques, mais ne saurait remplacer des thérapeutiques plus adaptées à certaines situations. Ainsi, la personne qui ne veut pas réellement changer quelque chose dans sa vie peut très bien établir elle-même des limites inconscientes aux résultats qu'elle dit rechercher. Une autre limite aux résultats du massage sensitif concerne les causes purement mécaniques et lésionnelles. Celles-ci sont du domaine de la médecine. La méthode Camilli se situe au carrefour de la psychologie, du social, du relationnel, du corps. Dans leurs aspects conscients et inconscients, nos actions portent sur les problématiques fonctionnelles ou psychosomatiques. Cependant, même lorsque nous ne pouvons rien pour soigner une maladie lésionnelle chronique dégénérative, nous pouvons toujours agir sur les crispations physiques, les effets toxiques du stress et sur le moral. Et en retour, le moral opère souvent un effet bénéfique sur notre personne. Même si nous ne pouvons pas distinctement agir sur une lésion, il est toujours envisageable de proposer le massage sensitif pour que le patient expérimente une détente profonde et un rapport amélioré à son corps souffrant. Les difficultés sont toujours moindres lorsque nous leur donnons un sens et lorsque nous comprenons qu'elles sont relatives. Ce qui est insurmontable pour l'un n'est qu'un jeu d'obstacles pour quelqu'un d'autre. Lorsque nous transformons notre conception, nous transformons des méthodes, plus que des techniques, un art de vivre. Nous enseignons beaucoup plus que des techniques et des savoirs. Nous transmettons des savoir-faire et surtout des savoir-être. Chaque praticien en massage sensitif travaille avec ce qu'il est profondément. Je ne forme pas des singes, mais à répéter Claude Camilli, mais des personnes qui peuvent laisser s'épanouir leur personnalité pour le plus grand profit de leurs clients et patients. Massage sensitif, toucher sensitif, méthode Camilli sont plus que des techniques à vocation de mieux-être ou psychosomatothérapeutiques. Ils sont de véritables arts de vivre en accord avec soi-même ainsi qu'avec autrui et permettant une véritable écologie relationnelle. L'art est un langage universel. Au-delà du beau, une des conceptions de l'art le considère comme une expression d'une part d'inconscient collectif. C'est un pont entre nos mondes intérieurs et ce qui se manifeste dans le concret. Pont entre le personnel et le collectif. En ce sens, le massage sensitif peut véritablement être considéré comme un art. En prenant en compte les aspects conscients et inconscients, personnels et collectifs de chaque individu, personne indivisible, le mariage sensitif établit des ponts entre le senti et le perçu, le personnel et le social. il développe un art de mieux vivre, de mieux se comprendre, de mieux communiquer. En favorisant le passage de nos vécus des domaines du sensitif à celui du perceptif, le massage sensitif permet de révéler à nous-mêmes nos parts inconscientes pour plus de paix et d'harmonie et de manifester davantage notre pulsion de vie. Le massage sensitif, c'est d'abord de la communication qui utilise le toucher comme vecteur de dialogue. L'important est donc d'abord de savoir entrer en relation. Le praticien n'agit pas sur une personne, mais lui fournit des moyens et points d'appui pour qu'elle puisse agir sur elle-même. Il favorise sa libre expression corporelle en l'encourageant à laisser venir tout ce qui vient, même si c'est incorrect, idiot, sans rapport. Aller à l'essentiel vivifie nos pensées, apaise notre corps et nous unifie. Les pépites du sensitif. Comme Claude Camilly aimait à le répéter, le massage sensitif n'est pas plus du massage que l'eau de Cologne n'est de l'eau. Dans la plupart des massages, le masseur est actif et ses mouvements sont appris. C'est sa tête qui dicte ses mains. Le masseur est dans l'action de faire quelque chose pour obtenir un résultat. En massage sensitif, le déroulement d'une séance n'est pas programmé à l'avance. Le massage évolue au fil des réactions du massé. Le praticien privilégie le temps de l'écoute pour sentir en profondeur les rythmes du massé et se met en accord avec ceux-ci. Cela peut décontenancer les personnes qui ont besoin de s'abriter derrière des certitudes. Elles demandent parfois « Mais vous n'avez même pas de protocole ?» En fait, nous mettons en œuvre un métaprotocole, un protocole qui donne toute son importance à la vie, aux spécificités de chaque personne. Un protocole qui ouvre sur le monde et les possibilités infinies de chacun. Le massage sensitif est une communication où il y a un émetteur et un récepteur. Pour communiquer, les deux doivent être sur la même longueur d'onde. Si nous développons un massage en appliquant des mouvements qui nous appartiennent, il n'y aura pas de communication. Nous devons commencer par écouter. Nous ne pouvons pas sentir ce qui est moins rapide que nous. Pour écouter, nous apprenons donc tout d'abord à être moins rapide que le massé. On apprend peu à peu à toucher, c'est-à-dire à sentir. On redécouvre aussi notre premier langage, celui du bébé, celui d'avant que nous ayons la maîtrise de la parole. Mais la différence principale avec les autres techniques de massage réside dans le fait que le client-patient, en massage sensitif, apprend à gérer lui-même sa tonicité et ses temps de détente. Il a donc là une dimension d'auto-coaching. Ainsi, les bienfaits du massage ne s'arrêtent pas quand celui-ci est terminé. Le patient-client est invité à mettre en œuvre par lui-même ce qu'il a acquis lors des séances et il devient ainsi de plus en plus autonome. Comme lors d'un bâillement, nous associons l'inspire à de la tonicité qui nous invite à l'action et l'expire à de la détente qui nous entraîne dans le silence de l'introspection. Cette alternance de tension et de détente permet d'entrer rapidement et en sécurité dans un réel lâcher-prise. L'alternance de temps de méditation et d'action permet une dynamique entre les pôles complémentaires de notre vie. Les anneaux borroméens, la troisième topique. Les psychothérapies ont généralement un axe théorique de prédilection. Les interrelations pour l'analyse transactionnelle, les gestalts pour la gestalt-thérapie, le psychisme inconscient pour les méthodes analytiques. Pour penser une méthode, élaborer des concepts, nous avons besoin de structures. Les archétypes sont des structures vides, organisatrices de la pensée. Parmi ceux-ci, le 3 tient une place de choix. Thèse, antithèse, synthèse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le parent, l'enfant et l'adulte de l'analyse transactionnelle, le ça, le moi et le surmoi freudien. La vision de l'humain proposée par la méthode Camilli s'inscrit dans cette dynamique triadique. En massage sensitif, nous prenons en compte à la fois le système musculo-squelettique, le système végétatif et le psychisme des personnes. La méthode Camilli joue sur les trois domaines, psychique, physique, volontaire, et végétatif, involontaire. En effet, lorsqu'il y a déséquilibre, nous ne savons pas toujours quelle en est la cause. Nous pouvons avoir le moral au plus bas parce que des soucis nous taraudent. Ou alors, notre système végétatif peut être la cause de notre mal-être, ou le manque d'exercice à l'origine de nos misères. Ne sachant pas a priori la cause des difficultés de nos patients, nous agissons sur les trois systèmes. Ces trois dimensions de l'être sont intimement liées et si nous arrivons à libérer un des trois, nous libérons les deux autres. On définit le système nerveux végétatif, nommé également système nerveux autonome, comme un système agissant en très large part hors du contrôle de la volonté. Le système nerveux autonome, à travers ses deux branches, sympathique et parasympathique, prend part à la régulation physiologique des principaux organes, tels le cœur, les poumons, le système digestif, ou autrement dit le deuxième cerveau, le système endocrinien. Schématiquement, le système sympathique stimule, par l'adrénaline, le fonctionnement corporel et psychique, accélération cardiaque, stimulation de la pensée, préparation à l'action. Tandis que le système parasympathique intervient pour ralentir l'activité cardiaque, réguler et même parfois conduit à des formes de sidération, de figement, lors de menaces ressenties comme extrêmes. Le système végétatif assure un véritable pont entre l'étage du psychique, étant sous le contrôle de l'hypothalamus, lui-même en lien avec le système limbique émotionnel, les hémisphères cérébraux, et le fonctionnement corporel. Le système végétatif permet à l'organisme de s'adapter tant à des sollicitations extérieures de l'environnement, température, oxygénation, qu'à des stimulations internes ressenties par le corps, effort physique, fourni, sensation de faim, vécu émotionnel. Dans le système complexe d'interaction réciproque entre corps et psychisme, le système végétatif joue donc un rôle important dont Claude Camilli a eu l'intuition. Les thérapies spécifiquement centrées sur les traumatismes, à la lumière des neurosciences et des observations cliniques des syndromes post-traumatiques, soulignent l'importance des réactions végétatives dans le vécu traumatique et ses effets de répétition. D'où la nécessité de repasser par le corps et prendre en compte les manifestations végétatives pour retraiter les souvenirs traumatiques. Lorsqu'une personne souffre d'un stress post-traumatique, très souvent sa fréquence cardiaque est irrégulière, accélérée ou ralentie, désynchronisée de son rythme respiratoire. On sait qu'à l'inspire, le cœur s'accélère, en tension, et que la fréquence cardiaque se ralentit à l'expire, en détente. Lorsque le massé parvient à amplifier sa respiration grâce à la présence en tension détente du masseur, il s'ensuit un bénéfice direct qui lui permet de retrouver une meilleure adaptation de son rythme cardiaque par activation du parasympathique et un mieux-être. Le croquis représentant les trois anneaux borroméens illustre bien cette dynamique. Par visualisation, on peut constater qu'en enlevant un des trois cercles des deux autres, les deux autres sont libres. Mais ils sont indissociables pour qu'un individu puisse fonctionner de manière autonome. Apportons ici une précision d'importance. Lacan a utilisé un croquis quasi semblable qu'il nomme nœud borroméen avec trois composantes, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Au croisement de ces trois cercles se trouve un triangle sphérique représentant le symptôme. Claude Camilli, à la suite des deux premières topiques freudiennes, conscient, préconscient, inconscient, en 1900, puis ça, moi, sur moi, en 1920, propose en 2000 une troisième topique, physique, psychique et végétatif. Ainsi, les aspects volontaires et involontaires du corps, dimensions conscientes et inconscientes, sont porteurs de traces mnésiques qui s'actualisent pour passer du sensitif au perceptif, de l'inconscient, ou préconscient, au conscient. Dans la pratique, lors du temps verbal de début de séance, nous interpellons le psychisme de la personne. Puis lors du temps corporel, ce sont ses dimensions physiques et végétatives qui sont sollicitées. Enfin, pour clôturer la séance, lors d'un nouveau temps verbal, nous mettons en relation les informations recueillies et changements obtenus verbalement et corporellement. Au cœur de cette vision de l'humain, s'épanouit la totalité du soi. Jamais l'un sans l'autre. Modalité verbale et modalité corporelle sont deux façons de s'exprimer tout à fait complémentaires. Sans l'expérience charnelle, nos paroles demeurent dans les concepts, se perchent parfois très haut, mais jamais n'atterrissent. Pour exister, il faut que le verbe se fasse chair, mais également que la chair, émotions, pensées, souvenirs, mémoire corporelle, des expériences vécues, prennent sens grâce au verbe. Les deux sont indissociables pour donner du corps et du sens à l'existence. La parole fait exister et symbolise l'expérience corporelle et les vécus corporels alimentent une parole incarnée. Parfois, dans les débuts de la pratique, nous pouvons avoir tendance à parler sans nous occuper des positions et des expressions de notre corps. Plus tard, surtout lors des temps de massage, nous gardons volontiers le silence. Nous croyons ainsi plus profiter du massage. Puis, petit à petit, nous nous apercevons qu'une dialectique entre le corps et la parole est plus riche et plus complète. Mettre des mots sur nos ressentis corporels les fait exister plus pleinement. Si nous nous contentons de ressentir, notre mémoire ne retient qu'une partie de nos vécus et nous perdons 90% des informations. Un fait en chassant un autre, lui-même remplacé par un nouveau, et ainsi de suite. Mettre des mots sur l'expérience au moment où on la vit fait passer les phénomènes des représentations de choses aux représentations de mots. Donc, selon la première topique freudienne, de l'inconscient vers le conscient. Lors des séances thérapeutiques, nous invitons à une alternance, et même parfois à une simultanéité, entre les vécus de massage et leur mise en mots. Les ressentis corporels appellent des réminiscences, des images, des émotions, des pensées, qui se transforment en mots pour mieux exister. Alors beaucoup de nos habitudes et comportements prennent sens. Et c'est bien de sens dont nous avons le plus besoin dans l'existence. Une expérience, si douloureuse soit-elle, est plus facilement supportable si nous pouvons lui trouver une explication, un sens. Une croyance freine bon nombre de personnes à entrer facilement dans une parole libre et spontanée. La croyance que les mots et les actes sont du même domaine. Si tu le dis, c'est que tu le fais, ou tu dois le faire. Pourtant, dans la société, il n'y a que les sentences des juges qui ont valeur d'acte. Nous savons bien qu'il en est tout autrement des paroles des politiques et de la très grande majorité de nos semblables. Cette erreur entraîne une autre confusion, celle entre fantasme et réalité. Certaines personnes disent chercher à réaliser leur fantasme. Si elles y parviennent, le plaisir est de courte durée. En effet, il ne peut être satisfaisant. L'acte doit rester concret et le fantasme psychique pour conserver son potentiel énergétique permettant de dynamiser la personne. Le corps vit des expériences, les paroles les font exister. Faut-il parler pendant le massage? Il n'y a pas de règle unique, mais quelques principes sont à prendre en considération. La raison de la parole, son sens. Il faut distinguer le patient qui renseigne son thérapeute d'une satisfaction, d'un malaise, d'une douleur. Dans ce cas, la parole a pour fonction d'informer et le thérapeute doit prendre en compte ce qui est exprimé. Le patient qui parle pour éviter de sentir. Dans ce cas, le thérapeute peut inviter à orienter le discours, l'expression des ressentis, inviter la personne à se taire pour mieux profiter du massage, être attentif à son corps, reviendrait à imposer un mode de fonctionnement sans doute difficile à vivre pour le patient qui s'exprime spontanément par la parole. Par contre, l'inviter à orienter sa parole vers ses sensations et ce qui se passe en lui conserve le côté rassurant du verbe tout en favorisant l'intériorisation. Ou le patient qui laisse venir des mots sur ses vécus et associations. Dans ce cas de figure, nous assistons à une libre expression verbale qui éclaircit et donne du sens à la libre expression corporelle. Ainsi, la parole donne corps à l'expérience. Le mécanisme de la prise de conscience. Sur le plan psychanalytique, considérant la première topique freudienne, la parole favorise le passage des représentations de choses, situées dans l'inconscient, aux représentations de mots, préconscients et conscients. Ainsi, plus celles-ci se situent proches des vécus corporels, moins elles risquent de les trahir. Prise de recul, l'expression verbale concomitante des vécus physiques et psychiques apporte une prise de recul. Elle situe ipso facto le patient dans deux états psychiques différents. Il demeure acteur tout en prenant la position d'observateur de lui-même. Cette double attention est intéressante pour ceux qui craignent d'être débordés par leurs émotions. La double attention permet de vivre pleinement ce qui survient sans être submergé. Elle permet de poursuivre l'expérience tout en lui donnant du sens par la parole. Pas de méthode unique. Certains pensent que parler empêche de vivre l'expérience, d'autres que parler permet de donner du corps au vécu. Situons-nous au-delà de ces opposés apparents. La thérapie ne doit-elle pas nous permettre de faire l'expérience de fonctionnement autre que ceux auxquels nous sommes habitués? Corporellement, nous proposons étirement ou mobilisation selon ce que nous observons chez le patient. Nous pratiquons donc l'équivalent d'une reformulation corporelle qui, comme la reformulation verbale, a un effet amplificateur de ce qu'il s'exprime. Sachons donc aussi adapter nos propositions de mode de verbalisation et choisissons la plus appropriée selon les personnes et les situations. Souplesse et adaptation à toutes les situations. La voie royale du dard. Dard est l'abréviation de décryptage analytique des rêves. Après le massage sensitif, voici le deuxième grand apport de Claude Camilli. Freud affirmait que l'analyse des rêves est la voie royale d'accès à l'inconscient. Nous partons de ce constat. En méthode Camilli, la première partie de la séance est verbale. Nous nous centrons alors surtout sur la partie psychique consciente et préconsciente de la personne. Lors du temps corporel, nous sommes plus centrés sur les parties physiques et végétatives, conscientes et inconscientes. En décryptant les rêves, nous portons plus notre attention sur les parties inconscientes du psychisme. Ainsi, la totalité corporelle et psychique consciente et inconsciente de la personne est prise en compte. Le dard, décryptage analytique des rêves, est une technique d'interprétation des rêves dans le respect des conceptions de Freud et des apports de Jung et de Lacan, mais en rupture avec l'attention flottante. Le psychothérapeute utilise une grille de décryptage en 15 points, groupé en cinq triades, qui permet au rêveur de prendre conscience de la manière dont son inconscient peut concevoir et compléter sa vie consciente. Cette grille est largement commentée et explicitée dans les formations de l'Institut. Émotions, pensées, structures, actions, histoires et leurs déclinaisons sont prises en compte. Les rêves et leur décryptage ouvrent les portes de nos intériorités. Le décryptage analytique des rêves procède tout d'abord, comme dans les autres méthodes sérieuses d'analyse, en faisant associer le rêveur sur les éléments de ses rêves. Puis ceux-ci sont passés au crible de la grille pour en faire ressortir les éléments forts et ceux qui en sont absents. Ensuite sont évaluées les actions, la structure, les émotions et les idées qui apparaissent dans l'histoire du rêve. Nous savons que les éléments du rêve, personnages, objets, animaux, sont codés. Il s'agit donc d'autre chose pour l'inconscient. Ainsi, lorsque nous rêvons d'une bicyclette, d'un avion, d'un lion, nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'il ne s'agit pas de ces objets ou animaux. C'est ce qu'ils symbolisent pour le rêveur qu'il faut aller chercher. Par contre, d'autres éléments, tels que les actions, ne sont pas codés. Nous savons aussi que pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Tout se passe dans un présent éternel. Fort de quelques savoirs généraux et en faisant associer le rêveur sur des éléments pertinents, les rêves permettent d'accéder relativement facilement aux éléments inconscients du psychisme. Leur décryptage apporte des prises de conscience et favorise les changements. Les informations croisées du psychisme conscient et inconscient avec ce qu'exprime le corps permettent de considérer les personnes dans leur totalité et d'accélérer en elles le processus d'individuation. Devenir soi-même une personne distincte et en lien avec la société.